France Inter.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, le mouvement des étudiants pro-palestiniens semble s'étendre à travers le monde.
Oui, des États-Unis à l'Australie en passant par la France, des dizaines de campus sont le siège de mobilisation et de tension. Ce matin, l'université de Sciences Po Paris a été évacuée. Le gouvernement lance un appel à la fermeté et les Israéliens regardent ce mouvement avec inquiétude. On rejoindra notre correspondant à Jérusalem. On ira aussi en Argentine au cours de ce journal où les médias sont la cible d'attaques quasi quotidiennes de la part du président Javier Milei. Reporters sans frontières s'en inquiète à l'occasion de la publication de son rapport annuel sur la liberté de la presse. Il avait cristallisé la colère des agriculteurs et avait été suspendu par le gouvernement le temps de calmer la crise. Le voilà de retour. L'exécutif dévoile la nouvelle version du plan Ecophyto qui doit réduire l'usage des pesticides en France à l'horizon 2030.
Ce plan convainc-il les associations de défense de l'environnement ? On posera la question à François Veyrette, porte-parole de Génération Future, invité de ce journal.
Ils font du porte-à-porte pour sensibiliser les particuliers face aux risques causés par les moustiques tigres. On suivra une opération de sensibilisation. On ira aussi visiter le nouveau RERE. Le chantier de prolongement de la ligne est achevé après 10 ans de travaux. Et puis on va s'inviter dans l'atelier rouge d'Henri Matisse. Le célèbre tableau du peintre est au cœur d'une exposition qui ouvre ses portes demain à la Fondation Louis Vuitton à Paris.
Après ce journal, une semaine en France avec Maître Lorénic, avocate au barreau de Paris. Son dernier livre, La justice contre les hommes, est publié chez Flammarion. Ensuite, à 19h20, au téléphone sonne un autre livre intitulé La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Question sur ces Français musulmans diplômés qui partent à l'étranger. On en parle au 01 45 24 7000. Vous pouvez nous appeler, le standard ouvre à l'instant.
France Inter.
Des CRS qui entrent dans les locaux de la rue Saint-Guillaume, 90 personnes évacuées, le gouvernement qui assume sa position de fermeté, les règles, on ne les défie pas, on les respecte, dit Matignon. La police est intervenue ce matin à Sciences Po Paris, devenue l'épicentre en France de la mobilisation étudiante en faveur des Palestiniens. Alors aux États-Unis aussi, Joe Biden est sorti de son silence pour appeler au retour de l'ordre, alors que le mouvement touche désormais une quarantaine de campus, de New York à la Californie, le Canada, le Mexique, l'Australie aussi voit leurs étudiants se mobiliser parfois dans un climat tendu. Alors comment tout cela est vu en Israël ? C'est ce que vous avez cherché à savoir, Thibault Lefebvre. Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem. On regarde ce mouvement avec incompréhension. On craint le retour d'un antisémitisme décomplexé. Vous avez recueilli le témoignage de Sheked, une étudiante israélienne qui manifeste pour la paix et pour le retour des otages.
Depuis le 7 octobre, Sheked a participé à la plupart des manifestations de soutien aux otages.
C'est insupportable de penser à ce qu'ils traversent.
Elle défend la paix, condamne l'intervention militaire violente israélienne, ne supporte plus de voir des images de civils gazaouis morts sous les bombardements de son armée et elle exige une trêve.
Ici aussi, nous appelons à l'arrêt de la guerre, à un accord et que les otages puissent revenir. Et malgré ça, le monde nous voit comme les assaillants. C'est très dur. Si moi, comme juive qui vit ici et qui a été touchée de différentes manières par ce qui se passe, je peux dire que je ne veux pas la mort de civils innocents de l'autre côté, ça devrait être la même chose pour des gens ailleurs qui ne sont pas touchés par le conflit. Ils devraient être capables de distinguer le gouvernement et les gens qui vivent ici et veulent juste vivre en paix.
Sheked a vécu 2 ans à Berlin. Son petit ami allemand est toujours sur place. Et pour le moment, dit-elle, il ne veut pas qu'elle revienne par peur qu'elle soit victime d'actes antisémites.
Reportage signé Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. En France, cette mobilisation va-t-elle s'étendre au lycée ? L'Union syndicale lycéenne appelle en tout cas à la mobilisation dès lundi dans tous les établissements du pays. La guerre à Gaza qui s'accompagne aussi d'un nombre record d'exactions commises contre les journalistes. C'est ce que dénonce Reporters sans frontières dans son rapport annuel sur la liberté de la presse. Les conditions des journalistes se sont également dégradées en Europe de l'Est et en Asie centrale. Dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais c'est l'Argentine qui connaît l'une des chutes les plus brutales dans ce classement. Le pays passe de la 40e à la 66e place. Caroline Vic, vous êtes à Buenos Aires pour France Inter. Ce qui inquiète RSF, ce sont les insultes, les attaques constantes contre les journalistes de la part du président Javier Milei et de ses ministres.
Corrompus, vendus, ignorants, crétins, Les insultes de Milei envers les journalistes sont fréquentes dans ses discours, lors d'interviews et surtout sur les réseaux sociaux. Le président décrit d'ailleurs le journalisme comme étant le pire égout de l'univers. Résultat de ce mépris présidentiel, la violence à l'encontre des journalistes est de plus en plus banalisée. On s'inquiète également des risques de dérive autoritaire avec la fermeture il y a un mois de l'agence de presse argentine Telam et le projet de privatisation de la télévision et de la radio publique. Dans ce contexte, les journalistes tentent de se défendre. Il y a 15 jours, par exemple, un journaliste insulté par Milei de menteur et de corrompu a déposé une plainte contre le président pour injure et a appelé ses confrères à s'unir pour, je cite, « mettre un point aux attaques du gouvernement ». Un climat de violence et de tension donc qui s'ajoute à la situation fragile et précaire des médias en Argentine. Et tout cela 4 mois seulement après l'arrivée au pouvoir du président Milei. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.
Quant à la France, elle reste sensiblement à la même position que l'année dernière. Elle est à la 21e place du classement de Reporters sans frontières. C'est la Norvège qui est en tête, l'Érythrée et la Corée du Nord en bas du tableau. Le Kremlin est-il derrière les cyberattaques qui ont visé l'Allemagne? Berlin accuse les services de renseignement russes d'avoir pris pour cible des services gouvernementaux, des entreprises du secteur de l'armement et de l'aérospatial. Des institutions tchèques ont aussi été ciblés. Bruxelles et Washington condamnent, Moscou dément. On y revient dans le prochain journal de 19h.
Le gouvernement promet de mettre les moyens pour lutter contre les pesticides.
Oui, Marc Fesneau dévoilait ce matin dans la presse les grandes lignes du plan Ecophyto, ce plan qui avait été suspendu cet hiver en raison de la colère des agriculteurs. Il sera officiellement présenté lundi. L'objectif est toujours, dit le ministre de l'Agriculture, de réduire de 50% les produits phytosanitaires d'ici 2030. Mais lundi, l'indicateur va changer au grand dam des associations de protection de l'environnement.
Et c'est ce qu'on voit à présent avec notre invité. Bonsoir François Veyrette.
Bonsoir.
Porte-parole de Génération Future. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, confirme donc la mise en place d'un nouvel indicateur en matière d'utilisation de produits phytosanitaires. Exit le NODU, l'indicateur dont se servait la France jusque-là. Elle utilisera à l'avenir l'indicateur européen. A priori, ça devrait faciliter les comparaisons. Pourquoi dites-vous que c'est un recul ?
Ben, si vous voulez, avant, les choses étaient claires. On avait un plan de réduction de l'usage des pesticides avec un indicateur, le NODU, qui comptait le nombre de doses. Et quand les traitements diminuaient, ben, le NODU diminuait. Quand le nombre de traitements augmentait, le NODU augmentait. C'était très simple. Aujourd'hui, on a un indicateur qui baisse tendanciellement ces dernières années, uniquement parce qu'au niveau européen, la Commission européenne retire certaines substances. Et donc, ça fait, par un moyen de calcul de cet indicateur, ça fait baisser tendanciellement le NODU. Ainsi, de 2011 à 2021, le NODU a augmenté de 3%, alors que l'indicateur européen a baissé de 32%. Donc, voyez un peu, ils sont complètement divergents, ces indicateurs. Et donc, le fait que le NODU n'ait pratiquement pas changé pendant cette période-là montre que les pratiques n'ont pas changé, alors même que cet indicateur européen HRE1, c'est son nom, indicateur harmonisé, lui montre une baisse forte. Et donc, cet indicateur, nous, on dit qu'il est menteur, puisqu'il donne à voir une baisse de l'usage qui n'existe pas. Et donc, quand Marc Fesneau nous dit que le plan reste toujours avec un objectif de réduction de moitié de l'usage des pesticides, c'est faux, puisque cet indicateur ne va pas mesurer l'usage des pesticides, il mesure aussi l'évolution des substances. Et donc, en fait, le plan a changé complètement de nature, quoi qu'en dise le ministre.
Et pour vous, François Veyrette, quelles sont les raisons de ce changement d'indicateur? Certains disent pour satisfaire la FNSEA, c'est ce que vous pensez vous aussi?
Bah, c'est ce qu'on pense, mais document à l'appui. Je veux dire, c'était écrit noir sur blanc dans la liste de demandes de la FNSEA il y a quelques mois, dans leur longue liste. Il y avait différents points, dont suppression du NODU dans le cadre du plan Ecophyto. Donc voilà, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, donc c'est pas compliqué à comprendre. Et ça fait partie des points de négociation. Et le Premier ministre a clairement cédé il y a quelques semaines sur ce point. Il l'a annoncé face caméra sur toutes les télés nationales. Donc effectivement, aujourd'hui, la FNSEA est contente parce qu'ils ont un plan qui va afficher mécaniquement dans un an, dans deux ans, une baisse encore plus forte. On va aller à moins 50% sans rien changer au niveau des pratiques, uniquement parce que l'Europe a prévu de retirer un certain nombre de substances actives qui ne répondent plus aux exigences actuelles. Et donc, si vous voulez, c'est assez catastrophique parce que c'est pas comme ça qu'on va continuer à donner un élan pour que les pratiques changent au niveau agronomique, au niveau agricole en France, puisque sans rien faire, on va mécaniquement arriver à moins 50%.
Alors, François Veyrette, si je peux me permettre, vous dites sans rien faire, le gouvernement, il annonce annonce tout de même 150 millions d'euros chaque année pour aider les agriculteurs à trouver des alternatives aux pesticides. Oui. Ça, c'est plutôt positif, non?
Ah oui, ça c'est positif, bien évidemment. Ça, on le salue. Mais le problème, c'est que ces alternatives, elles vont, pour certains systèmes, pour beaucoup de systèmes, elles existent déjà. Pour d'autres, elles vont être optimisées ou être créées. Mais est-ce qu'elles seront retenues et utilisées par les agriculteurs? On n'en a absolument pas la garantie, puisqu'on l'a vu pour les betteraves avec les néonicotinoïdes. Il y a eu un plan de recherche et d'innovation qui est abondé à hauteur de plusieurs millions d'euros, 4 ou 5 millions d'euros. Il y a des alternatives qui ont été mises sur la table, qui avaient une certaine efficacité, et les producteurs de betteraves sucrières ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas, on ne les emploie pas, parce qu'on perd un peu de rendement, parce que ce n'est pas aussi efficace que les néonicotinoïdes, etc. Donc, avoir un plan qui débouche sur des recherches et qui produisent des résultats, c'est bien. Maintenant, il faut se poser la question, comment on les diffuse dans la profession agricole, et comment est-ce qu'on fait pour que la profession agricole abandonne certaines solutions chimiques au profit de solutions agronomiques. Et le vrai problème, c'est le problème du transfert de ces nouvelles méthodes et comment on va faire pour que la profession puisse se les accaparer. Pour faire ça, il faut, à notre sens, un certain niveau d'obligation. Si vous n'imposez pas, si vous voulez, un certain niveau d'obligation à la profession pour qu'elle change ses pratiques, il ne se passera jamais rien. On l'a vu pendant 15 ans, Ecophyto, pendant 15 ans, n'a pas produit de résultats positifs parce que c'était un plan uniquement basé sur les engagements volontaires. Et on a vu, l'histoire en est la preuve, que ça ne marchait pas.
Merci beaucoup François Veyrette, porte-parole de Génération Future. Merci d'avoir répondu aux questions de France Inter.
Et puisqu'on parle du gouvernement et des actions pour protéger la planète, Gabriel Attal a inauguré tout à l'heure le prolongement de la ligne E du RER, symbole selon le Premier ministre de l'écologie des solutions et pas de l'écologie de la culpabilisation. 10 ans de travaux, plus de 5 milliards d'euros et une ligne qui relie désormais la gare Saint-Lazare à Nanterre en passant par la Porte Maillot et la Défense. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Le PDG de la SNCF était lui aussi présent à l'inauguration, Jean-Pierre Farandou, qui ne cachait pas sa satisfaction.
Ouais, comme une respiration pour lui après avoir subi hier les foudres de Bruno Le Maire sur son accord signé avec les syndicats de cheminots sur les fins de carrière, l'inauguration de ce projet baptisé EOL tombait presque, on va dire pour lui, à point nommé.
Des projets comme ça, on n'en fait pas 20 dans une carrière. Hein. C'est du temps long, le ferroviaire, c'est un peu ingrat par rapport aux politiques. Hein. On aimerait aller plus vite. Bon, enfin, on y est, on a eu des surcoûts, on a eu des retards, et les retards signifient des surcoûts. Il faut être très transparent, nous l'avons été, nous avons rendu des comptes, parce que c'est de l'argent public, et c'est bien normal.
Du bon usage de l'argent public, clin d'œil ou non, à Bruno Le Maire, peu importe aujourd'hui, l'heure était aux réjouissances. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
Je rejoins Jean-Pierre Farandou. Zut, de temps en temps, soyons un peu fiers de ce qu'on est capable de faire. On a été capable de faire ça. Le monde entier regarde. Il regarde Paris. Alors quelquefois, on me dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'elle augmente le Navigo? Pourquoi est-ce que les entreprises voient leur cotisation mobilité augmenter? C'est pour payer ces infrastructures.
Des infrastructures nouvelles pour le Grand Paris qui va réduire les temps de parcours dans la capitale et autour. Un exemple surtout à dupliquer partout, ambition du Premier ministre Gabriel Attal.
Nous le voulons pour toutes les métropoles et nous voulons permettre le plus largement possible à nos concitoyens partout en France d'accéder à ces gains de vie précieux. Comme ça a été le cas pour EOL, je sais pouvoir compter partout sur l'engagement total de la SNCF, des départements, des métropoles pour réussir.
Allusion au RER métropolitain annoncé par Emmanuel Macron et dont le financement reste pour l'heure à éclaircir.
Merci Maxime Debs pour toutes ces précisions et cette nouvelle partie de la ligne E ouvrira lundi aux voyageurs. Le service restera partiel jusqu'à la fin de l'année car il faut roder les nouveaux matériels. Toujours en région parisienne et toujours concernant le RER, le trafic est perturbé sur la ligne C en raison d'une voiture tombée d'un pont sur les voies. Ça s'est passé en gare de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Seul le conducteur de la voiture a été blessé. Il a perdu le contrôle de son véhicule selon les premiers éléments de l'enquête. Des peines allant jusqu'à 10 mois de prison ferme, le tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné 12 hommes pour avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente rencontrée en ligne. Le tribunal a estimé qu'aucun d'entre eux ne pouvait ignorer que l'adolescente avait moins de 15 ans au moment des faits. À Sochaux, dans le Doubs, une adolescente de 14 ans a été présentée à la justice ce matin. Elle est suspectée, Marek Keta, d'avoir frappé une camarade de son collège sous les yeux de 5 autres élèves qui ont filmé et diffusé la scène.
L'auteur présumé de l'agression a été présenté au parquet de Montbéliard ce matin et placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès début juillet. D'ici là, elle est prise en charge par la protection de l'enfance et confiée à un foyer. On lui reproche les faits de violence aggravée. Les 5 autres jeunes filles, dont au moins 4 ont filmé la scène, seront jugées pour complicité lors de la même audience devant le tribunal pour enfants. Toutes risquent la même peine, 2 ans et demi de prison. Si elles étaient majeures, ce serait 5. Concernant le motif de cette affaire, fut-il, dit le parquet de Montbéliard, l'agresseuse présumée aurait voulu régler ses comptes avec la victime qui aurait tenu des propos sur sa vie personnelle. L'adolescente a déjà fait l'objet d'un conseil de discipline lundi qui l'a exclue définitivement du collège de Sochaux. La victime ne garde pas de séquelles physiques de cette agression.
Marie-Quetta de France Bleu Belfort Montbéliard pour France Inter. Des renforts de police demandés à Bordeaux pour apaiser les tensions dans le quartier des Aubiers où un jeune homme de 18 ans a été tué à coups de couteau ce midi. L'enquête s'oriente vers un règlement de compte sur fond de trafic de drogue.
Et maintenant cette question, comment faire face à l'invasion des moustiques tigres?
Oui, question de santé publique, alors que ce moustique vecteur de maladies chaque été plus nombreux dans nos parcs et nos jardins, eh bien c'est maintenant qu'il faut agir car on est au début de la période de ponte des œufs. Dans les départements qui sont le plus touchés, comme les Hauts-de-Seine, on multiplie donc les opérations de sensibilisation auprès des particuliers. Reportage à Bourg-la-Reine, signé Romaric Caillé pour France Inter.
Gilet jaune sur le dos.
L'ARD pour la mairie, pour les moustiques.
Les membres de l'agence régionale de démoustication font cet après-midi du porte-à-porte.
Bonjour madame.
L'objectif pour cette entreprise privée mandatée par la mairie, passer au crible les jardins.
Non mais on en a vu là, hein, quelques-uns.
Ouais, ah, ça commence.
Ouais, ça commence simplement vider les coupelles, les arrosoirs, etc. Retourner les brouettes.
Et vous avez été embêté par les moustiques tigres?
Anne-Marie et Gilles, un couple de retraités.
Ça fait 2 ans qu'on dîne plus dehors le soir.
On peut plus profiter du jardin. En fait.
80% des moustiques tigres émergent chez les particuliers. Anaïs, elle travaille pour la RD.
Le moustique tigre n'est pas une espèce qui se développe dans les marécages, par exemple. C'est un moustique qui peut se développer dans des tout petits contenants d'eau, et ça, il y en a vraiment partout. Donc du coup, plus vite on évite qu'il y ait de l'eau stagnante et plus tôt on évite l'émergence des adultes.
Non, après le moustique tigre, il vole à 150 mètres de son gîte, donc c'est pas forcément que dans votre jardin.
Pour Patrick Donat, maire de Bourg-la-Reine, ça doit être l'affaire de tous.
Ici, la crèche qui a beaucoup souffert l'année dernière, juste derrière, il y a une maison de retraite. Puis ensuite, on n'est pas à l'abri de profusion de maladies comme le dengue ou chikungunya, etc.
Aucune démoustication chimique ne peut être décidée en prévention. Ces opérations ne se font qu'en cas d'urgence sanitaire.
Reportage signé Romaric Caillé. Et puis c'est un tableau majeur de l'histoire de l'art, une source d'inspiration pour toute une génération de peintres abstraits, notamment américains. L'atelier rouge de Matisse est au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Louis Vuitton, une toile de 1911 où le peintre a représenté son atelier à Issy-les-Moulineaux. L'occasion, Isabelle Pasquier, de découvrir l'histoire étonnante de cette œuvre avant-gardiste.
Cette immense toile rouge de Venise est fascinante. Elle nous plonge dans l'intimité de l'atelier de Matisse. Mais il n'y a plus de perspective. Émotion aussi, car pour la première fois, les œuvres représentées dans cet atelier rouge sont rassemblées. Le jeune marin, les baigneuses, le luxe et un nu en terre cuite. Mais l'histoire de cette toile iconique est incroyable, car au départ, elle n'était pas du tout rouge. Anne Temkin, conservatrice en chef du MoMA de New York, qui a analysé la toile en profondeur.
This painting.
Cette peinture existait au départ dans une version beaucoup plus réaliste. Matisse avait peint le bois des murs en bleu, le parquet en rose et les meubles en ocre jaune. C'est resté comme cela plusieurs semaines. Et un jour, Matisse décide que la toile a besoin de quelque chose. Il prend son pinceau, la couleur rouge, et rapidement, il recouvre de rouge presque tout le tableau. Et là, quand vous vous approchez du tableau, il y a ces poils du pinceau qui prouvent qu'il a peint très vite. Il était très excité et le pinceau en a perdu des poils. C'est un peu comme si le tableau lui avait dit « j'ai besoin de quelque chose d'autre ».
À l'époque, la toile choque Tchoukine, le collectionneur russe, ne l'achètera pas. Mais elle fascinera les peintres abstraits comme Rothko et Elwar Skelly, auxquels la Fondation Vuitton offre une rétrospective. Elwar Skelly, la couleur sans limite.
Reportage signé Isabelle Pasquier. Alors pour plonger dans cet atelier rouge, rendez-vous à partir de demain et jusqu'au 9 septembre prochain à la Fondation Louis Vuitton à Paris.
Quelle histoire, merci beaucoup. C'était le journal de Céline Aslo. Le temps, c'est tout de suite.
La météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Encore des averses ce soir.
Oui, des averses parfois accompagnées d'orages et de nouvelles pluies qui arriveront par le sud-ouest. Demain, beaucoup de nuages, quelques pluies, alors des pluies plus copieuses du sud de la Bretagne et des Charentes vers le centre-Val de Loire le matin, puis jusqu'à la frontière belge l'après-midi. On aura quelques éclaircies tout de même près de la Manche, de l'est des Pyrénées vers la Méditerranée et le flanc est aussi, et au sud de la Garonne pour l'après-midi, mais c'est en Corse que le soleil se montrera le plus.
Les températures plutôt en légère hausse ?
Oui, ça reste trop juste tout de même pour la saison. 14 degrés à Deauville et Limoges, 16 à Lille, Paris, Brest, Bourges, 18 à Bordeaux et à Dijon, 20 degrés à Strasbourg, à Lyon, à Toulouse, jusqu'à 22 à Biarritz. Dimanche, pluie ou averses orageuses au menu. Des températures en hausse, une moyenne de 18 degrés au nord, 22 au sud. Patience, on a une amélioration qui va se dessiner en milieu de semaine prochaine.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.